Vous écoutez RTL.
Quand je pense à Fernande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi.
RTL.
Tout le reste en m'indiffère. J'ai rendez-vous avec vous.
Jusqu'à 22h.
Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Et la bouche pleine de joyeux ramages, elle est à la chasse aux papillons.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Georges Brassens aurait-il 95 ans ce 22 octobre, le poète chantant est toujours dans nos cœurs et sur nos lèvres. On le célèbre, on le raconte avec notre invité Jean-Claude Lamy. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous avez travaillé à François, au Figaro aujourd'hui. Vous êtes chroniqueur, Midi Libre, et vous publiez chez Brassens, Légende d'un poète éternel. C'est aux éditions du Rocher. C'est un très beau livre avec de très beaux dessins, des dessins de Philippe Lorrain, et d'ailleurs, en couverture, le visage de Georges Brassens. Vous nous le décrivez ?
Ah oui, ce Brassens assez merveilleux, c'est son regard, celui que j'ai croisé moi, plusieurs reprises. Et là, il y a tout le bonheur d'être en partage avec les autres, sa générosité, sa bonté.
La bienveillance. C'est un mot qui lui va bien, c'est vrai.
Et puis, oui, parce que il y a dans son regard la bonté dans ses yeux. Et puis Brel qui disait « Le sourire de Brassens, c'est le plus beau sourire d'homme que je connaisse ». Et c'est vrai que avoir eu Brassens en face de soi, c'est un privilège.
Alors, vous l'avez rencontré quand et comment ? À quelle occasion ?
Eh bien... J'ai eu une longue carrière de journaliste.
Quelle chance.
Bravo.
Merveilleux métier. Ouais. Et un beau jour, un de mes amis, Louis Nucera, qui est devenu un écrivain, qui a eu une fin tragique malheureusement, était à l'époque attaché de presse de la firme Philips, qui produisait les disques de Georges Brassens. Et il m'appelle en me disant, j'ai pris un rendez-vous pour toi avec Brassens, mais pour cela, il faut que tu viennes à Cannes, où nous avons affrété un bateau. Tu seras avec lui pendant 2 heures, tu pourras parler autant que tu voudras avec lui, il est prêt à te recevoir assez longuement. Et ce bateau, on l'a rebaptisé la Jeanne, en souvenir de Jeanne Le Bonnier, qui était la Jeanne de l'impasse Florimond, qui avait accueilli Georges à l'époque.
À l'époque, c'est une immense star quand vous le rencontrez ?
Ah oui, il a été assez rapidement une vedette. Hein. Et là, c'était effectivement, c'était en 65, si je ne me trompe pas. Je venais d'entrer à François, d'ailleurs, à ce moment-là. Et on a eu une conversation magnifique.
On va écouter maintenant le grand succès qu'a lancé Georges Brassens.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que non, les braves, j'en
aime pas. La mauvaise réputation, on est en 1952. Cette chanson, Georges Brassens commence à la chanter dans quel cabaret ?
Bien, il l'a chanté chez Patachou, qui avait un cabaret sur la butte Montmartre.
À Paris.
Qui était un cabaret très couru par le tout Paris, comme on le dit. Et des amis de Brassens, qui étaient des journalistes de Paris Match, Victor Laville, Pierre Galante, Roger Théron, avaient parlé de Brassens à Patachou en disant « On a un copain de Sète » qui écrit des chansons, qui voudrait qu'elles soient chantées, mais lui, peut-être, il pourrait les chanter lui-même. Et Patachou lui a dit, eh bien, amenez-moi votre copain. Et Brassens a subjugué Patachou.
Alors, c'est la première, mais ce ne sera pas la dernière chanson de Brassens à être censurée. Pourquoi est-elle censurée, cette mauvaise réputation ?
Eh bien, les chansons de Brassens ont été censurées parce que l'époque a été coincée, voir arriver un personnage pareil qui disait ses quatre vérités, qui était rebelle dans l'âme, ça ne plaisait pas aux bourgeois de l'époque, et même aux familles qui fermaient les oreilles de leurs enfants quand Brassens chantait. Mais très rapidement, il a pris le dessus et il est devenu cette vedette.
Il est devenu rapidement célèbre, Georges Brassens. Il est vite repéré après être monté sur cette scène du cabaret de Patachou en 1952.
Oui, il a tout de suite... il avait chanté aussi Le Gorille, qui était une chanson emblématique.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Garogorie.
C'est difficile de choisir sa chanson préférée dans le répertoire de Brassens, mais moi je vais quand même dire que c'est Le Gorille, parce qu'elle commence comme une ballade prime sautière. Et ensuite, elle raconte quoi ?
Ben c'est une chanson contre la peine de mort. Mmh. Hein. Le petit juge,
en bois brut.
Hein, absolument. Il avait fait guillotiner un homme. Et le gorille va l'emmener dans un fourré pour lui faire sa fête. Il avait choisi le petit juge plutôt qu'une ancêtre. Hein. Il avait le choix entre une vieille dame et le petit juge. Oui. Et cette chanson a choqué énormément à l'époque. Parce que n'oublions pas que c'était la peine de mort qui existait, hein. La guillotine fonctionnait.
Et en 64, dans un tout autre genre, peut-être pas tant que ça, Georges Brassens compose cette chanson pour le film d'Yves Robert, souvenez-vous.
Papa, papa, il n'y eut pas entre nous.
Alors ça, c'est pour son papa et sa maman, et on l'entendra in extenso tout à l'heure.
Voilà, les copains d'abord.
Sur la grand-mare des canards. Et s'appelait les copains d'abord, ces fluctuat nec mergitur, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord.
Jean-Claude Lamy, racontez-nous comment réagit Yves Robert quand il entend cette chanson qu'il a demandé à Georges Brassens de lui composer pour son film qui s'appelle Les copains d'abord. Il réagit comment ?
Eh bien, il s'était connu aux Trois Baudets, Yves Robert et Georges Brassens.
Cabaret parisien aussi.
Cabaret parisien, animé par Jacques Canetti, qui était un personnage qui a lancé beaucoup d'artistes. Et au moment de réaliser son film, qui était adapté du roman de Jules Romain, Les copains, Yves Robert a pensé tout de suite à Brassens et il s'est rendu accompagné de sa femme, qui était Danielle Delorme, une actrice, à Crépy. Dans la propriété de Brassens pour lui proposer d'écrire cette chanson. Et Brassens, sous leurs yeux, a commencé à écrire la chanson, à écrire la musique. Et cette chanson est devenue emblématique.
D'ailleurs, Yves Robert lui dit cette chanson, elle va être plus connue que mon film. Elle va rester dans toutes les mémoires. Il n'a pas tort.
Parce que Brassens avait demandé à Yves Robert d'en conserver les droits. Et effectivement, la chanson est beaucoup plus célèbre que le film aujourd'hui.
Quelle est l'histoire de cet homme, Georges Brassens ? D'où vient-il ? Comment a-t-il pris ce goût de la musique, le goût des mots ? Le récit dans un instant, les curieux.
Vous écoutez RTL.
Près de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
RTL.
Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon. Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bienvenue chez Brassens, avec le journaliste Jean-Claude Lamy. On vous raconte le destin du poète français, légende d'un poète éternel, c'est le titre de votre livre publié aux éditions du Rocher. Jean-Claude Lamy, il a disparu il y a 35 ans, Brassens. Alors on se souvient et puis on l'écoute, ça fait du bien hein, d'écouter ses mots dans la curiosité. On va remonter à l'origine, il naît à 7, donc 22 octobre 1921, on l'a dit tout à l'heure. Dans quel milieu, qui sont ses parents ?
Bien, sa mère, Elvira, est d'origine italienne, du sud de l'Italie. Son père est de Castelnaudary, Jean-Louis Brassens. Il était maçon. Elvira l'a rencontré, ils se sont mariés. Elvira avait déjà été mariée avec un tonnelier de Bouzic dans la région de Sète. Mmh. Et cet homme était mort pendant la guerre de 14-18. Et elle avait eu une fille avec lui, Simone, la demi-sœur de Brassens. Et Georges, donc, est né dans un milieu modeste, mais où on était heureux et où on chantait toute la journée.
Ouais, et ça explique une partie de son destin. De quoi il rêvait, tiens, pour lui, ses parents? Est-ce qu'il imaginait chanteur ou alors oui, toute autre chose?
Son père l'aurait bien vu prendre la succession de sa petite entreprise de maçonnerie, mais Georges, qui maniera plus tard la truelle, n'était pas quand même très doué pour ce métier. Ouais. Et sa mère le voyait plutôt professeur, avocat, mais personne n'imaginait une seconde qu'il monte un jour sur scène pour chanter et qu'il devienne Georges Brassens.
Et qu'un jour, Georges Brassens, lui, leur écrit cette chanson. Écoutez.
Papa, papa, il n'y eut pas entre nous, papa, papa, de tendresse ou de mots doux. Pourtant on s'aimait bien qu'on ne se l'avoua pas. Papa, 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 papa.
Maman, papa, en faisant cette chanson. Maman, papa, je redeviens petit garçon. Et grâce à cet artifice, enfin je comprends le prix de vos sacrifices. Avoir fait pleurer aux temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas. Maman, papa, maman, papa.
Papa, maman, une chanson qui nous prend à la gorge, hein, qui raconte qu'on pourrait tous siffler et adresser à nos parents. C'est un duo avec Patachou. Il l'a écrite où, cette chanson, Georges Brassens, pour ses parents?
Cette chanson, il l'a écrite en Allemagne quand il était au STO, au service du travail obligatoire, parce qu'il a été requis pour le STO en mars 1943. Ils sont tous partis, les jeunes gens de la classe 21, depuis la gare de l'Est. Ils se sont retrouvés dans un petit village près de Berlin. Et ils ont dû travailler. Ils s'occupaient de moteurs, d'aviation, BMW. Et c'est là que Georges, le soir, et même la nuit, une partie de la nuit, commençait à écrire des textes, des chansons, et dont Papa, Maman, Maman, Papa. Et les premiers à avoir eu le privilège d'écouter cette chanson, ce sont ses camarades du STO, en particulier l'un d'eux qui s'appelle René Isquin, que j'ai rencontré, qui a été son premier auditeur et aussi son premier interprète, qui a chanté des chansons de Brassens dans le cadre de ce camp de travail en Allemagne.
Alors la maman de Brassens était très croyante, il lui a rendu hommage à la télé en interprétant Santa Lucia, c'est en 1977, avec Tino Rossi. Vous nous avez dit, Jean-Claude Lamy, que tout le monde chantait dans la famille de Brassens. Qui lui a donné le goût des mots? Parce que les textes de Brassens sont magnifiques.
Bien, il aimait la littérature, même petit garçon, il lisait. Mais rapidement, c'est au collège de Sète, que là, il a eu la chance de rencontrer un professeur de lettres qui s'appelle Alphonse Bonafé, qui venait du Havre. Il avait été professeur avec Jean-Paul Sartre, qui travaillait également au Havre. Et là, il est arrivé devant cette bande de garnements et de chenapans de la classe de 3e, qui ne voulaient pas faire grand-chose. Et ils ont découvert, grâce à lui, les poètes Baudelaire, Verlaine, et même Mallarmé, et même Paul Valéry, qui viendra à Sète pour voir les élèves lors d'une remise de prix. Et Brassens, à ce moment-là, est tombé amoureux de la poésie.
Et il est devenu lui-même poète. On va vous raconter dans un instant pourquoi ce jeune poète a dû quitter sa ville de Sète. Il était question de...
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
Vous écoutez RTL.
Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
RTL.
Les sabots d'Hélène étaient tout crottés. Les trois capitaines l'auraient appelé vilaine. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur. Avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Georges Brassens aurait eu 80 ans en octobre, 95 ans ce mois-ci. On vous raconte sa carrière, les histoires de ses chansons qui sont passionnantes avec le journaliste Jean-Claude Lamy qui publie chez Brassens, légende d'un poète éternel. C'est aux éditions du Rocher avec ses très très beaux dessins qui accompagnent vos récits, les dessins de Philippe Lorrain. Georges Brassens qui grandit dans une famille où on chante tout le temps, il apprend la musique, l'écriture grâce à un incroyable prof de français, la poésie, et puis à 18 ans, il vit toujours à Sète. Il y a un événement qui va chahuter son destin. Que se passe-t-il ?
Eh bien, avec ses copains, il était en classe de seconde. Il y avait un chef de bande qui l'a entraîné dans des aventures compliquées, des vols de bijoux. Il y a eu brusquement une rumeur qui a circulé dans Sète, des petits voleurs volent des bijoux chez des gens et on ne savait pas qui étaient les voleurs. Et en fait, Brassens s'est retrouvé mêlé à cette affaire. Lui, il avait volé pas grand-chose. Les policiers de Sète les ont arrêtés et ils sont passés en jugement à Montpellier, en correctionnel. Et Georges Brassens a été condamné à plusieurs mois de prison avec sursis.
Et donc, il a chopé une mauvaise réputation, Georges Brassens. C'est ça qui lui a donné cette idée de la chanson, quelques années après ?
C'est surtout une autre chanson qu'il a écrite à propos de cette histoire, c'est Les Quatre Bacheliers, où là il rend hommage à son père, parce que son père ne l'a pas condamné par cette histoire. Et alors que sa mère était montrée du doigt dans la rue par les Sétois, et Georges a été obligé de quitter Sète et de partir à Paris. D'ailleurs, ça lui faisait plaisir de monter dans la capitale.
Il débarque à Paris donc en 1940. De quoi vit-il ? C'est quoi sa vie à Paris ?
Il va chez sa tante. Il va chez sa tante qui habitait rue d'Alésia dans le 14e arrondissement, qui avait une pension de famille. Elle l'héberge. Surtout, elle avait un piano. Et là, Georges jouait du piano à longueur de journée, mais il fallait effectivement travailler un peu. Et alors, il a fait des petits boulots, il est allé chez un relieur au Batignolles, et ensuite, il a travaillé chez Renault. Comme tourneur chez Renault, mais bon, ça n'a pas duré très très longtemps.
Mais il écrit des chansons. Il commence à écrire.
Il écrivait des textes. Mais très rapidement, il a dû abandonner ce travail, d'autant que l'usine Renault a été bombardée par les Allemands, et lui est reparti ensuite difficilement, mais il est reparti à Sète, où là il a vécu quelques temps tranquillement auprès de sa famille et au bord de l'étang de Thau.
Alors il y a la poésie évidemment, mais ce qui va souvent avec la poésie, c'est l'amour et les rencontres. Et il rencontre en 1943 Jeanne, la femme de sa vie, l'une des femmes de sa vie. Qui est-elle ?
Jeanne, c'était vraiment un personnage incroyable. Georges avait eu une permission et était parti d'Allemagne pour revenir à Paris, et il n'a pas voulu revenir ensuite en Allemagne. Il était donc réfractaire et il fallait qu'il se cache. Et il s'est caché chez Jeanne Le Bonniec, qui était la couturière de sa tante.
Plus âgée que lui ? Elle était plus âgée que lui, Jeanne.
Elle avait 30 ans de plus que lui.
Ah hein, oui, quand même.
C'était cougar.
Avant l'heure.
Avant l'heure.
Ils sont tombés amoureux.
Et ils se plaisaient bien, mais dans cet espace impasse Florimont, c'était une vie incroyable, où, au milieu des chats, des chiens, de la fameuse canne de Jeanne et du mari de Jeanne, Marcel Planche, qui dormait avec les poules.
Et donc, ils sont restés ensemble, entre guillemets, toute leur vie, Georges Brassens et Jeanne ?
Bien, ils ont eu une vie intime pendant quelques temps. Jeanne était admiratrice de Georges. Elle lui a acheté une guitare, elle lui a acheté des livres sur les quais. Et ensuite, Georges a dû quitter l'impasse Florimont parce que Jeanne, un beau jour, a trouvé un autre Georges, beaucoup plus jeune, qui avait des moustaches, mais qui n'écrivait pas de chansons et qui ne jouait pas de la guitare, et elle l'a épousé.
Quelqu'un de plus sérieux.
Voilà,
on va dire ça. Allez, on se transporte à la fin de la guerre. Georges Brassens rencontre une femme pour laquelle il écrit notamment cette chanson.
J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau, nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Au diable les maîtresses que qui attachent les cœurs aux queues des casseroles.
Pour qui écrit-il cette magnifique chanson, La non-demande en mariage ?
Bien, il est écrit pour Poupchen, qu'on appelait Poupchen, ça veut dire petite poupée en allemand. Son nom, c'est Joa Eschmann, qui était une Estonienne d'origine et qu'il a rencontrée en 1943, puis il l'a revue en 1947 près du métro Plaisance et c'est devenu sa compagne.
Et ils menaient une double vie, c'est-à-dire il y avait Jeanne d'un côté et Poupchen de l'autre.
À un moment donné, oui, il y avait Poupchen et il y avait Jeanne, mais c'est Poupchen qui est devenue véritablement la femme de Georges sans l'épouser.
Dans un instant, on vous raconte pourquoi Georges Brassens aimait les gros mots. Avez-vous déjà compté le nombre de fois qu'il prononce le mot « con » dans cette chanson ?
Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con.
Allez, restez sur RTL, vous êtes bien. Nous, on a compté pour vous. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
RTL.
Garogory, il n'avait jamais vu l'ombre d'un bûcheron. Ce grand chêne fier sur son tronc. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics, bancs publics. En se disant des je t'aime pathétiques. Ont des petites gueules bien sympathiques.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On vous invite chez Brassens sur RTL, dans la curiosité, grâce à notre invité, le journaliste Jean-Claude Lamy. Chez Brassens, c'est aussi le titre de votre livre, publié aux éditions du Rocher, portrait en mots et en dessins. Les dessins sont signés Philippe Lorrain. Pendant qu'on écoutait Mourir pour ses idées, on continuait de discuter, évidemment. André Facetta, notre réalisateur, disait « Faut penser à la musique de Brassens, elle est plus compliquée qu'elle n'en a l'air, c'est vrai ?»
Oui, il n'avait jamais appris le solfège, mais il tapotait au coin d'une table et la musique arrivait avec les paroles. Et sa musique est très subtile. Elle est vraiment une musique de vrai musicien de jazz aussi. Il aimait beaucoup le jazz. Il a joué avec l'orchestre de Moustache, par exemple. Et Brassens, quand on dit qu'il a une musique qui n'a pas grand intérêt, on se trompe énormément. Parce que la musique de Brassens est formidable. Je veux dire, il faut l'écouter, il faut tendre l'oreille pour les mots et le son.
Et il avait cet art, Georges Brassens, de raconter des histoires. Il y avait toujours des héros dans ses chansons, des personnages.
Oui, ben, les gens qu'il croisait, les gens de Sète, les gens qui pouvaient rencontrer, entrer dans ses chansons, c'était sa mémoire, c'était sa chronique, sa mémoire.
Il était journaliste en quelque sorte aussi.
Absolument, il l'a été d'ailleurs, puisqu'il a travaillé au Libertaire et il voulait créer un journal avec un de ses amis qu'il avait rencontré au STO. Il voulait créer une sorte de Charlie Hebdo avant la lettre, qui s'appelait Le Cri des Gueux. Ils n'ont jamais réussi à lancer ce journal, mais Brassens était d'abord un journaliste, en quelque sorte.
Mais puisque vous parlez de ce thème de l'anarchie, il a écrit dans un journal anarchiste, mais ça ne s'est pas très bien passé. Pourquoi ? C'était presque trop violent ce qu'il écrivait, c'est ça ?
Oui, non, mais c'est parce que le Libertaire, c'était le journal Le Libertaire, il avait envoyé un jour un article où il parlait d'un flic qui était toujours là, sous Pétain, et puis à la Libération, et il a raconté l'histoire de ce flic, le Libertaire a voulu connaître ce journaliste, il est entré au Libertaire, il est devenu secrétaire de rédaction du Libertaire, mais comme c'était quelqu'un qui aimait les mots, il trouvait parfois que les articles que l'on publiait ne correspondaient pas à ce qu'il espérait, et il était très indépendant, et un jour, il s'est fâché avec l'équipe du journal et il est parti.
Alors en 69, à l'initiative d'RTL et du magazine Rock and Folk, c'est une archive incroyable, c'est Georges Brassens qui participe à un entretien historique sur le thème de l'anarchie, justement avec Léo Ferré et Jacques Brel. Tendez bien l'oreille.
Quand j'étais au mouvement anarchique, j'y suis resté 2-3 ans. J'ai d'ailleurs jamais rompu avec, mais enfin, je ne militais plus comme avant. Je faisais Libertaire à une époque, en 45, 46, 47. Chacun avait de l'anarchie une idée tout à fait personnelle. C'est ça qui d'ailleurs est exaltant dans l'anarchie. Il n'y a pas quand même un véritable dogme. C'est une morale, c'est une façon de concevoir la vie. C'est difficile à expliquer, je n'en serais pas.
Une priorité de l'individu, tout.
Oui, ça vient.
Voilà, et puis je crois que c'est une morale du refus. Une morale du refus, car s'il n'y avait pas eu quelques énergumènes au long des millénaires qui n'avaient pas dit non à un certain moment, nous serions encore dans les arbres.
De l'importance de dire non.
C'est génial de réécouter un extrait de cette conversation qui n'a pas dû être simple à monter quand même, parce qu'avoir ces trois monstres sacrés ensemble, déjà sur une interview ou même sur une photo, c'était pas facile.
C'est l'exploit d'un jeune pigiste de Rock and Folk qui travaillait à l'époque à RTL comme assistant de production et qui avait dit « je réussirai à réunir les trois ». Brassens, Brel, Léo Ferré. Et tout le monde ricanait, essaye, tu verras bien. Et il y est parvenu. Et devant donc le micro de RTL et l'objectif d'un photographe qui s'appelait Jean-Pierre Leloire, pendant plus de 2 heures, ces trois monstres sacrés ont parlé de leur vie, de la mort, de Dieu, de beaucoup de choses. Ils ne s'entendaient pas forcément très bien entre eux. Je veux dire, Brassens et Léo Ferré, ça ne marchait pas fort. Alors que Brassens préférait Jacques Brel, qu'il appelait l'abbé Brel.
mais ça voulait dire quoi, pardon, je vous interromps, ça voulait dire quoi l'anarchisme pour Brassens dans sa vie ? Je ne sais pas, est-ce que ça avait des conséquences?
C'est la liberté, la liberté, être avec les autres, mais en étant libre. Et il y avait un de ses amis, bien oublié aujourd'hui, mais qui, heureusement que Brassens a adapté ses textes en chansons, c'est Paul Fort, le prince des poètes. Et Paul Fort disait, Brassens, c'est un anarchiste pour rire.
Est-ce que les gros mots qu'il adore prononcer, Georges Brassens, dans ses chansons, est-ce que ces gros mots, c'est une part de son anarchisme aussi ?
Je
parle comme je veux.
Oui, c'est souvent à travers lui, on entend aussi le capitaine Haddock. Je veux dire,
pas chez Bouzouk.
Mais chez lui, sa mère n'aimait pas qu'on dise des gros mots. Ah. Elle disait, Georges, quand même, tu es grossier. Ces gros mots, il aimait bien les répéter, il était grossier, mais jamais vulgaire.
Oui, alors sa mère n'a pas dû beaucoup aimer cette chanson.
Le temps ne fait rien à la faire. Quand on est con, on est con. Quand on est 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con.
On tient nos promesses.
Alors
hein,
on a compté pour vous, con. Eh ben 28 cons.
Ah, c'est
ça,
pas
ça
mal,
fait beaucoup dans une même chanson. 28 cons.
J'adore cette chanson. Bon, il avait quel caractère, tiens?
Alors, c'était quelqu'un, il avait du caractère.
Ça, c'est bien, hein, ça.
Un peu bourru, qui n'aimait pas quand on lui marche sur les pieds, qui était extrêmement réservé. Puis quand on est devenu très célèbre, il n'osait plus sortir de chez lui parce qu'on l'abordait en permanence. Et quand il arrivait à 7, où il n'était pas venu depuis longtemps, ses copains le voyaient, dit « Ah, salut Georges !» T'es pas mort ? Parce qu'à 7, on meurt deux fois. Quand on s'absente longtemps et le jour du grand départ.
Georges Brassens, un homme de caractère, un homme libre, mais aussi un homme malade, un sujet sur lequel il était très pudique. On vous raconte la part d'ombre du chanteur dans un instant.
Pour satisfaire votre curiosité, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, 20h-22h sur RTL. Vous écoutez RTL.
Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie.
RTL.
C'était un petit cheval blanc, tous derrière lui, devant.
La curiosité est un vilain défaut.
À toutes les femmes qu'on aime,
jusqu'à 22h,
vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il est né dans une famille chantante du sud de la France à 7, un 22 octobre 1921. Georges Brassens, en mots et en musique, dans la curiosité, il aurait eu 95 ans cette année, ce mois-ci, si la maladie lui avait fichu la paix. Cette maladie, vous en parlez aussi, Jean-Claude Lamy, dans Chez Brassens, légende d'un poète éternel, publié aux éditions du Rocher. Cette maladie, elle entre vite dans sa vie. De quoi souffrait-il, Georges Brassens ?
Il a d'abord souffert de coliques néphrétiques, mais on n'en meurt pas. Il allait voir des médecins qui l'examinaient pas vraiment parce que c'était une vedette. On préférait l'écouter, le regarder plutôt que de chercher un diagnostic. Et il avait un cancer. Il est mort d'un cancer du côlon comme sa mère Elvira. Et les deux dernières années, ça s'est dégradé très vite. Lui, il avait peur que la presse découvre sa maladie. Alors il s'est réfugié chez un chirurgien de la région de Montpellier, docteur Bousquet, qui l'a accueilli dans sa famille, avec sa femme Monique, qui était infirmière. Et il est mort une semaine après son 60e anniversaire, le 29 octobre 1981.
Donc il meurt très jeune, hein, de ce cancer. Les coliques néphrétiques avant, parce que dès la fin des années 50, je crois qu'il fait un malaise lors d'un séjour à Biarritz. C'est pas encore le cancer à ce moment-là ?
Non, absolument pas. Il avait des crises de coliques néphrétiques et quand il montait sur scène, il fallait lui faire une piqûre. Il y avait toujours un médecin en coulisses. Il est même arrivé une fois à l'Olympia dans une ambulance, mais il a fait son spectacle. C'était terrible. Il a été opéré des reins, mais le cancer, lui, s'est propagé à partir des années 79-80. Il faut dire qu'il s'alimentait très mal, il mangeait un peu n'importe quoi, il ne faisait pas attention à sa santé.
Et ces accidents, cette souffrance comme ça au quotidien, qui l'empêchait de monter sur scène, ça lui a inspiré une chanson.
J'en appelle à Bacchus, à Bacchus, j'en appelle le tavernier du coin. Viens me la bailler belle, de son établissement j'étais le meilleur pilier. Quand j'eus bu tous mes sous, il me mit à la porte en disant les poivreaux, le diable les emporte. Ça ne fait rien, il y a des bistrots bien singuliers.
La dernière scène, ça a été Bovino.
Cette chanson, c'est L'Épave.
L'Épave, oui, pardon, il faut donner le titre, évidemment.
Avec le vin qui soulage.
Ouais, sa dernière scène, c'est Bovino. C'est pas un hasard, il aimait cette salle particulièrement.
Ah oui, parce que c'était la salle de musicaux la plus proche de chez lui. c'est une salle du 14e arrondissement. Brassens, c'est le 14e, l'impasse Florimont. Mmh.
On peut être artiste et pragmatique. Hein.
Ouais, donc on est dans le quartier de Montparnasse.
Il voilà, était heureux d'aller à Bovino. Il aimait bien l'Olympia également de Bruno Cocatrix. Mmh. Mais à Bovino, ça a été son dernier grand spectacle. Le 19 octobre 1976, 1973, il s'est installé à Bobino et il est resté 5 mois à l'affiche.
Ah oui,
5 mois à l'affiche.
D'accord. C'est amusant parce que
record.
Au tout début de sa carrière, avant même qu'il monte sur scène, la légende dit qu'il est passé devant Bobino et qu'il a dit...
Oui, je chanterai dans cette salle. Et il a tenu promesse puisqu'il est devenu une des grandes figures de Bobino. Et lui, comme c'était un homme généreux, en première partie, il mettait des jeunes gens qui venaient chanter en première partie. Il y a eu Maxime Le Forestier, par exemple, Bernard Dimet. Et il faisait la courte échelle à la jeune génération.
C'est combien de chansons, tiens, Brassens? Parce qu'en écoutant depuis le début de cette heure la mise en onde d'André Facetta, il n'y a que des chansons magnifiques et connues.
Et il y en a beaucoup.
Et il y en a beaucoup. C'est combien de chansons?
Il y a des dizaines de chansons. Mmh. Il y a un livre d'ailleurs qui vient de paraître dans la collection Bouquins et où toutes les chansons de Brassens sont reproduites. C'est l'intégrale de ces chansons et paroles et musique. Et c'est un album intéressant parce que c'est J'ai rendez-vous avec vous et c'est la première fois qu'un chanteur, auteur, interprète entre dans cette collection.
Il aurait pu avoir le... Puisqu'on parlait de Bob Dylan et de son Nobel de littérature.
Absolument, il aurait pu avoir le prix Nobel de littérature et il aurait pu entrer à l'Académie française, mais il se voyait mal en habit vert.
Il a eu un petit truc qui ne va pas, mais
il a eu le grand prix de poésie de l'Académie française parce qu'il avait de grands amis. Il avait Joseph Kessel, il y avait Marcel Pagnol, il y avait Marcel Achard, il y avait Maurice Genevoix et d'autres qui l'admiraient vraiment.
Et il y a énormément de chanteurs qui ont repris ses chansons. Écoutez quand Barbara chante Brassens.
Toi, l'épouse modèle, le grillon du foyer, toi qui n'as point d'accroc. Dans ta robe de mariée, toi, intraitable Pénélope, en suivant ton petit bonhomme de bonheur, ne verses-tu jamais en tout bien, tout honneur, de jolies pensées interlopées?
Pénélope, c'est une chanson de Georges Brassens que Barbara chante, ou c'est une chanson qu'il a pu écrire pour Barbara?
C'est une chanson de Georges Brassens et il donnait volontiers ses chansons à d'autres interprètes. Il en a donné une aussi à Marcel Amont, par exemple, qui était son ami, qui arrivait en avion en Bretagne, où Brassens avait une maison près de Paimpol, où il recevait ses copains, et Pierre Tchernia qui venait, Fred Mella, le soliste des Compagnons de la Chanson, Louis Nucera, dont on parlait tout à l'heure, et beaucoup d'autres. Sa maison était ouverte. Et Brassens était là toujours... attentif à ses copains.
Vous nous parliez tout à l'heure, Jean-Claude Lamy, des années de jeunesse de Brassens, de cette famille où l'on chante. Son idole de jeunesse, c'était Charles Trenet. On a retrouvé une très belle archive où il est face à Trenet et il lui chante Le Grand Café.
Vous essuyez toujours la grande table, c'est pour payer cette soirée lamentable. Ah, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que d'entrer dans ce café. Plein de manières, vous étiez beau. Le temps vous a défait, les mythes commencent à vous bouffer. Au grand café, au grand café.
C'est extraordinaire. Je me demande, Brassens, quand je vous entends chanter Le Grand Café, si je rêve, si vous êtes là réellement, vous êtes là. Hein?
Vous rêvez un petit peu, je ne suis jamais tout à fait là.
Ah, je m'en doutais.
Quelle poésie et quel poète. Merci beaucoup, Jean-Claude Lamy. C'est un bonheur de vous avoir au micro de la curiosité pour prolonger ce voyage chez Brassens, parce qu'il n'est jamais terminé. Chez Brassens, justement, légende d'un poète éternel avec les très beaux dessins de Philippe Lerin. C'est aux éditions du Rocher. Merci beaucoup.
Merci.
Merci, c'était un très beau moment de radio qu'on vient de passer avec vous sur RTL. Merci beaucoup. Fin de notre curiosité. Alors, pour le coup, cette émission, encore plus que les autres, il faut vraiment la réécouter en podcast sur rtl.fr.
Vous pouvez même l'envoyer à vos amis et vos ennemis par mail, ça se fait.
Vous écoutez RTL.